BW. Droits et libertés.
Nous parlions il y a peu dans ce magazine des répercussions de la crise liée au coronavirus sur la faim dans le monde. Et cette semaine, nous allons creuser un petit peu le sujet en Afrique pour parler de famine donc, mais aussi d'autres problèmes renforcés par la crise sanitaire, comme la tendance de certains régimes à en profiter pour réprimer toute forme de contestation, ou celle de groupes armés qui mettent l'affaiblissement des personnes et des structures à profit pour relancer des actions terroristes. Et de terrorisme, il en sera également question en seconde partie d'émission avec la résurgence du groupe État islamique. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Le Niger est l'un des pays où la crise liée au coronavirus, et plus particulièrement les restrictions imposées dans le secteur des transports et la fermeture des frontières, ont rendu plus difficile l'approvisionnement des civils à cause de la hausse des prix de la nourriture, des semences pour l'agriculture ou encore des intrants, les engrais donc. Or, la plupart des familles nigériennes dépendent plus ou moins directement de l'agriculture. C'est ce que rappelle Mohamed Rissa, il est président de l'ONG ASCD, spécialisé dans l'aide au développement.
Cette pandémie de coronavirus est arrivée au Niger dans un contexte déjà difficile de crise sanitaire et sécuritaire. Il est important de noter que la plupart des populations rurales, dans toutes les contrées du pays depuis plusieurs années, sont assistées par des plans d'aide de part des fonds internationaux. Tout ceci s'est aggravé par la propagation du COVID-19, d'autant plus que la plupart des ONG qui interviennent dans plusieurs zones ont interrompu leur activité depuis le début de cette crise.
Plusieurs ONG internationales et nationales mettent donc en garde contre la famine. Elle menacerait dans les prochains mois jusqu'à 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Dans différentes régions du Niger, l'aide est d'autant plus difficile à acheminer que la sécurité est précaire du fait de la présence de groupes terroristes comme Boko Haram au sud ou les mouvements armés implantés dans le Nord Mali qui débordent dans l'ouest du pays par exemple. À cela s'ajoute la présence massive de personnes migrantes venues des pays de la sous-région qui transitent par le Niger dans leur tentative de rejoindre l'Europe dans la clandestinité, des populations supplémentaires qui renforcent donc les besoins en ressources pourtant déjà rares. Qui dit restriction à cause du coronavirus dit aussi difficulté à organiser des manifestations de masse. Celle que vous entendez derrière moi vient du Irak, d'Algérie, avant les mesures de confinement. Et de nombreux dirigeants ne sont qu'à moitié fâchés de voir la contestation ainsi réduite à peau de chagrin dans leur pays. C'est en tout cas l'avis de Moussana Itamara d'Algérie.
Elle est de plus en plus arbitraire, absolutiste et répressive. La nouvelle Algérie, finalement, la nouvelle Algérie promise par Tebboune est finalement une Corée du Nord qu'il voudrait installer en Afrique du Nord.
Les arrestations se sont multipliées ces derniers mois, au dire des militants algériens. Au Nigeria aussi, les violences policières ont augmenté. C'est ce qu'a recensé la Commission nationale des droits de l'homme. Tony Ojukwu y travaille.
Nous avons enregistré 105 plaintes pour violation des droits de l'homme, dont 18 pour exécution extrajudiciaire. Nous constatons un usage exagéré de la violence, des abus de pouvoir, des actes de corruption ainsi que des violations du droit nigérian et international par les forces de sécurité.
Le nombre de victimes des forces de sécurité dépasserait même maintenant celui des victimes de la COVID-19.
5h du matin, les enseignants sont rentrés dans les villages.
Binta Sagara de Gao, au Mali.
Ils ont commencé à tuer. Ils ont tué 8 personnes. Mon mari faisait partie, son grand frère. Je ne sais pas quoi faire. Je suis là avec mes enfants, je ne sais pas comment faire. On en a marre. On a vraiment besoin d'aide.
Ce que Binta Sagara raconte correspond à ce que des millions de personnes vivent dans le Sahel. D'autant que l'armée est parfois réquisitionnée pour veiller à l'application des restrictions sanitaires et donc n'est plus affectée à la lutte contre le terrorisme. Analyse de Dario Cristiani, membre du German Marshall Fund à Washington.
Cela pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Tout dépendra des dégâts économiques de l'épidémie dans les pays européens.
In Europe, we will see a significant reduction in defense expenditure.
Certains États en Europe risquent de réduire drastiquement leurs dépenses militaires et les interventions à l'étranger risquent de passer au second plan.
Appetite for military engagement.
Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la DW. Hors de l'Afrique, le groupe État islamique a repris du poil de la bête. Le mouvement djihadiste semble bien profiter de la crise du coronavirus. Le groupe État islamique a récemment incendié des champs de blé dans le nord de l'Irak. L'objectif était clair, terroriser et mettre à genoux les civils qui voient leurs moyens de subsistance partir en fumée s'ils coopèrent trop avec les autorités. Le 28 avril, par exemple, un kamikaze s'est fait exploser devant la centrale des services de renseignement de Kirkuk en plein jour. Cet attentat marque un tournant dans la stratégie du groupe État islamique qui agissait plutôt de nuit jusqu'à présent. Quelques jours plus tard, le 1er mai, des terroristes ont mené des combats directs contre une milice irakienne au nord de Bagdad, tuant 10 membres de ce groupe d'autodéfense dénommé Unité de mobilisation populaire. La particularité de ces combats, c'est que les djihadistes ont lancé un assaut sur plusieurs côtés à la fois et déposé des bombes sur le trajet que les secours et les renforts allaient emprunter. Ce fut un vrai carnage. La nature des attaques du groupe État islamique est donc en train de changer, selon Sam Hella. Il est conseiller de l'ONG International Crisis Group et il observe la situation depuis Beyrouth.
Depuis le début de cette année, il y a eu davantage d'échanges de tirs soutenus, des affrontements directs avec les forces irakiennes, avec les forces de sécurité irakiennes, là où les djihadistes recouraient auparavant aux attaques asymétriques. Les attaques sont devenues plus complexes. Ils recourent aussi à des embuscades et des attaques à la bombe pour battre les renforts irakiens.
En mars 2019, le califat autoproclamé de l'État islamique a pourtant perdu les derniers restes du territoire qu'il contrôlait. En octobre dernier, le calife autoproclamé d'Idlib, dans le nord de la Syrie, a même été abattu par l'armée américaine. L'administration Trump a alors claironné sa victoire sur les terroristes. Pourtant, dès le 20 janvier 2020, un rapport des Nations Unies mettait en garde contre la reconstitution des forces du groupe État islamique en Syrie et en Irak. L'organisation a certes retrouvé la clandestinité, mais elle a recommencé à y déployer ses réseaux comme elle avait procédé en Irak en 2017. La perte de ses territoires à contrôler lui aurait donc même permis de relancer ses attaques avec plus de souplesse.
Der IS ist weiterhin eine der stärkeren Terrororganisationen weltweit.
L'État islamique continue d'être l'une des organisations terroristes les plus puissantes au monde. Si on prend ses activités en Irak et en Syrie, on voit que l'organisation reste forte. Avant sa grande ascension en 2013-2014, l'organisation ne disposait que d'environ 700 combattants en 2010. Aujourd'hui, le I compte 2000 à 3000 hommes en Irak et 2000 à 3000 hommes en Syrie. Et à mon avis, cela montre le danger qui se profile.
In Syrien auch noch mal 2000 à 3000 Mann. Und das zeigt aus meiner Sicht die Gefahr, die droht.
Guido Steinberg, que nous venons d'entendre, étudie le terrorisme. Certains autres observateurs ont même des estimations bien plus élevées du nombre de combattants du groupe État islamique. James Jeffrey, par exemple, envoyé spécial des Nations Unies pour la coalition anti-Daesh, va jusqu'à évoquer 14 000 à 17 000 terroristes du mouvement en Syrie et en Irak. La disparition du califat, avec tous les guillemets appropriés, ne semble pas non plus avoir coupé les revenus des djihadistes. Un rapport de l'armée américaine daté du 11 mai 2020 estime que le groupe État islamique a des réserves financières de plusieurs centaines de millions de dollars, sans compter les revenus que l'organisation tire toujours de ses activités illégales et criminelles, comme les enlèvements, les trafics d'armes, de drogue ou encore la traite d'êtres humains. Le directeur du CIPRI, Dan Smith, est lui prudent. L'organisation continue d'avoir les moyens de nuire à une échelle importante.
Ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est d'empêcher toute autre personne de vivre en sécurité. Les opérations de l'État islamique ressemblent maintenant beaucoup plus à une organisation de guérilla classique et moins au califat autoproclamé d'il y a 5 ans. Daesh s'est reconstitué en Irak à partir de janvier 2020, après l'assassinat de Soleimani, qui était le leader de l'Iran en Irak et l'un des grands ennemis de l'organisation État islamique.
En Irak, les programmes de formation des forces de sécurité par des armées étrangères, dont la Bundeswehr, l'armée allemande, ces programmes ont été suspendus. Les États-Unis remettent en question leur présence militaire en Irak. 4 bases ont déjà été fermées et les troupes américaines ont été retirées de 2 autres camps. Pour reprendre les mots de mon confrère Matthias von Hein, le groupe État islamique est l'ennemi de tous, mais tous ne le considèrent pas comme l'ennemi numéro 1 et l'organisation terroriste sait en profiter comme elle l'a déjà fait par le passé. C'est la fin de ce magazine. Merci à Matthias von Hein et Dunia Sadaki pour les sons. Retrouvez podcasté Droits et Libertés sur notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.